Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1762. Émile ou de l'éducation est un traité philosophique majeur de Jean-Jacques Rousseau, construit autour de la formation imaginaire d'un garçon, Émile. Depuis la naissance jusqu'à son entrée dans la vie adulte, le livre ne fournit pas un programme scolaire directement applicable. Il examine plutôt les conditions nécessaires pour former un être libre, autonome, sensible et capable de vivre parmi les autres, sans être entièrement façonné par leurs préjugés. Rousseau place au centre la nature de l'enfant, ses rythmes de développement, son corps, ses besoins et son expérience concrète. Il conteste ainsi les pratiques qui imposent trop tôt des savoirs, des règles morales ou des ambitions adultes. Les cinq livres suivent des âges successifs et abordent aussi le travail manuel, la citoyenneté, la religion, les passions, le jugement et le mariage, texte des Lumières. Il demeure influent autant pour son attention novatrice à l'enfance que pour les débats suscités par ses limites sociales et ses conceptions très datées des rôles féminins. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, respecter les étapes de développement plutôt que précipiter les savoirs. Rousseau part d'une idée devenue centrale dans la réflexion pédagogique moderne. L'enfant ne constitue pas un adulte réduit. Ses facultés se développent selon un ordre propre. Et l'éducation échoue lorsqu'elle demande prématurément le raisonnement abstrait, la vertu civique ou la maîtrise verbale qui suppose une maturité encore absente. Durant les premières années, la santé, le mouvement, les sensations et la robustesse comptent davantage que l'acquisition précoce de connaissances livresques. Cette thèse ne signifie pas que l'éducateur abandonne l'enfant à lui-même. Elle exige au contraire une observation patiente afin de proposer des situations adaptées à ses capacités réelles. Rousseau critique les leçons morales répétées. Car un enfant peut apprendre des mots sans comprendre les rapports humains qu'il désigne. Il faut donc distinguer le langage de la compréhension. Son modèle refuse de mesurer le progrès par la seule quantité d'informations mémorisées. Il privilégie la formation graduelle du jugement. Cette attention aux âges explique la structure de l'ouvrage, organisée en cinq livres. Elle fait de l'éducation un processus temporel, où chaque apprentissage doit répondre à une nécessité vécue plutôt qu'à une exigence de conformité scolaire ou mondaine. Deuxièmement, faire apprendre par les conséquences et l'expérience sensible. La méthode de Rousseau repose sur ce qu'il appelle souvent une éducation négative. Avant de transmettre des préceptes, il convient d'empêcher que les vices, les dépendances et les opinions artificielles ne s'installent. L'éducateur organise l'environnement plus qu'il ne multiplie les sermons. L'enfant découvre ainsi certaines règles par les effets de ses actes, dans des limites qui préservent sa sécurité. Une imprudence, un objet mal entretenu ou un besoin mal anticipé peuvent devenir des occasions de comprendre les contraintes du réel. Cette démarche attribue une valeur éducative à la résistance des choses. Le monde matériel répond avec davantage de constance que les ordres arbitraires des adultes, lesquels peuvent encourager la ruse, la soumission ou le ressentiment. Rousseau défend aussi les activités concrètes, les jeux, l'observation et le travail des mains, car il relie les connaissances à une utilité perceptible. Il se méfie des livres donnés trop tôt, notamment des récits dont les intentions morales demeurent obscures pour de jeunes lecteurs. Son approche ne supprime pas toute instruction, elle en déplace le moment et la forme. Savoir devient plus solide lorsqu'il répond à une question rencontrée dans l'expérience et lorsqu'il permet d'agir avec plus de discernement. Troisièmement, former une autonomie qui ne se confond pas avec le caprice. La liberté recherchée dans Émile ne désigne ni l'absence totale de règles, ni la satisfaction immédiate de tous les désirs. Rousseau distingue soigneusement les besoins naturels. Limité et lié à la conservation des désirs artificiels produits par la comparaison sociale, le luxe et la recherche de prestige. Un enfant habitué à obtenir tout ce qu'il réclame devient dépendant de ceux qui cèdent à ses demandes. Inversement, celui qui apprend à faire face aux nécessités réelles acquiert une marge d'action plus grande. L'éducation doit donc réduire les dépendances personnelles inutiles sans nier la dépendance inévitable envers la nature et les autres. Cette analyse donne au refus éducatif une fonction précise, il ne doit pas être une manifestation de pouvoir adulte, mais une réponse cohérente aux limites des choses et aux besoins du développement. Le travail manuel occupe ici une place importante. En apprenant un métier, Émile peut subvenir à certains besoins, comprendre la valeur des objets et éviter le mépris social associé aux travaux pratiques. L'autonomie est aussi intellectuelle. Rousseau souhaite un individu capable d'examiner les opinions reçues au lieu de les répéter. Cette indépendance exige toutefois un cadre préparé avec rigueur par le précepteur, tension durable entre l'idéal de liberté et la direction très forte exercée par l'éducateur. Quatrièmement, reconnaître le rôle des passions dans la naissance de la morale, Rousseau ne propose pas une éducation qui chercherait à éteindre les passions. Il les considère comme des forces nécessaires à la conservation et à l'action. L'enjeu consiste à les orienter, à en différer certaines manifestations et à empêcher qu'elles ne deviennent domination, vanité ou rivalité. Dans son parcours, Émile doit d'abord éprouver sa propre vulnérabilité avant de pouvoir comprendre celle d'autrui. La pitié, sentiment décisif chez Rousseau, fonde une première ouverture morale, elle rend sensible à la souffrance sans exiger encore les raisonnements complexes du droit ou de la politique. Plus tard, l'adolescence transforme l'éducation. L'éveil des désirs, de l'imagination et de l'amour rend insuffisante la seule discipline des besoins physiques. L'éducateur doit alors guider le jugement, car les relations sociales exposent à la jalousie, au regard des autres et aux illusions. Rousseau relie donc la morale à une psychologie du développement plutôt qu'à la mémorisation de maximes. La vertu ne peut être simplement imposée de l'extérieur. Elle doit prendre appui sur des affections devenues assez mûres pour reconnaître autrui comme un semblable. Cette perspective explique l'importance accordée à la sensibilité, mais elle soulève aussi une difficulté. La formation morale imaginée reste largement contrôlée par le précepteur. En dernier lieu, relie éducation religieuse, vie sociale et modèle conjugal contesté. Dans les derniers livres, Rousseau élargit son projet au passage vers la société. Émile ne doit pas seulement devenir habile et indépendant. Il doit apprendre à juger les institutions, à assumer des liens affectifs et à trouver une orientation spirituelle. La profession de foi du vicaire savoyard défend une religion naturelle fondée sur la conscience, l'observation du monde et un sentiment intérieur de justice, plutôt que sur la contrainte dogmatique. Cette partie contribua fortement à la condamnation de l'ouvrage par les autorités de son temps. Rousseau cherche à préserver la foi de l'emprise des disputes théologiques tout en refusant un matérialisme qui réduirait l'être humain à ses intérêts. La question sociale demeure pourtant ambivalente. Émile est préparé à entrer dans le monde sans y perdre son jugement, mais il a été formé loin de ses mécanismes ordinaires. Le traitement de Sophie rend cette ambivalence plus visible. Rousseau lui assigne une éducation et une fonction conjugale subordonnée à celle de l'homme au nom de différence entre les sexes. Cette position est une limite majeure du livre et contredit son universalité apparente. La lire aujourd'hui suppose donc de distinguer les intuitions fécondes sur l'enfance et l'autonomie des hiérarchies de genre propres à son système. En conclusion, Émile ou de l'éducation intéressera les étudiants en philosophie, en histoire des idées et en sciences de l'éducation, mais aussi les enseignants, les parents et les lecteurs qui veulent interroger les finalités de la transmission. Il ne faut pas le consulter comme un guide pratique immédiatement transférable à la famille ou à la classe. Son intérêt réside dans les questions exigeantes qu'il impose, que comprend réellement un enfant, à quel moment une règle devient, elle, intelligible. Comment favoriser l'autonomie sans abandonner la responsabilité éducative et comment former le jugement face aux pressions sociales. La lecture apporte ainsi un outil critique pour examiner les pédagogies fondées sur la performance précoce, la seule mémorisation ou la discipline arbitraire. Elle aide également à reconnaître la valeur du corps, de l'expérience, des activités concrètes et des émotions dans la formation humaine, par rapport au manuel pédagogique. Le livre se distingue par son ambition philosophique, l'éducation y engage une théorie de la nature humaine, de la liberté, de la morale, de la religion et de la société. Cette ampleur explique sa postérité durable. Elle impose aussi une lecture critique, notamment face au contrôle très étendu du précepteur et à la place inégalitaire réservée à Sophie. Le livre demeure donc précieux moins comme modèle à reproduire que comme laboratoire intellectuel, où les tensions fondamentales de toute éducation sont exposées avec une force rare. Si vous souhaitez soutenir Jean-Jacques Rousseau, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.